Oui, ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. J'ai mille preuves que tu aimes tous tes enfants de la terre. Chacun est précieux à tes yeux. Aucun n'est de trop, aucun n'est jetable. Le plus blessé par la vie, comme le plus meurtri par l'existence, comme le plus béni par la vie, béni ou meurtri, chacun de tes enfants est précieux. Dans la vie familiale, quand un enfant est malade, alors on s'en occupe davantage, vous les mamans, enfin le sirop, enfin toutes les pilules, les petits soins, enfin le jus d'orange. L'enfant est malade, les autres nous ont bien. Alors vous n'avez plus d'attention pour l'enfant malade, vous aviez plus d'attention. Et puis c'est bien naturel. Si vous, avec votre cœur de maman ou de papa, vous faisiez ça, ça vient d'où? Ça vient du cœur de Dieu. Plus son enfant est blessé, malade, nous on le met en prison tellement il est dangereux. Pour le Père du ciel, c'est un enfant aimé, chéri, blessé. Jamais le Père abandonnera son enfant. Jamais, 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 c'est pas possible. Jamais. Je rencontre souvent des gens qui disent, « Père Roger, quand même, là, il faut qu'il y ait du monde en enfer. » La personne qui dit ça parle pour les autres, évidemment. L'enfer, c'est pour les autres, là. C'est pas pour moi, là, c'est sûr. Mais elle vient de dire une chose atroce sans s'en rendre compte. C'est pas... S'il y avait des gens qui souffrent le malheur éternel, quelle image ça donne de Dieu? Qui est ce Dieu qui aurait désiré le sang de son enfant pour calmer sa colère? Mais c'est épouvantable de dire ça. Voilà pourquoi, si, comme je disais à l'homélie, si quelque part dans ton monde intérieur, dans ta compréhension, tu as un peu peur de Dieu, enfin, c'est le bon Dieu, mais... Oh, c'est le bon Dieu, c'est certain, c'est le bon Dieu, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Là, il nous surveille, puis il nous guette, puis il nous voit tout le temps, puis là, c'est le bon Dieu, mais enfin, s'il ne m'attrape pas pendant ma vie, ça va être à ma mort. Puis, nous avons enseigné ça. Avec une bonne peur de Dieu, tu peux marcher droit assez longtemps. J'en ai assez peur. J'en ai assez peur. Mais tu seras un chrétien de peur. Si tu as peur de Dieu, c'est pas lui. C'est ce qu'on t'a enseigné, ce que tu as compris, c'est ta propre synthèse. On ne peut pas avoir peur de l'infiniment bon, de l'infiniment aimable. Retrouve dans ta vie une personne qui, pour toi, a incarné la bonté. Une personne dont tu pouvais dire, toi, « Ah, ça, c'était bon comme du bon pain. » Moi, j'ai un souvenir de ma tante Élise. Ma tante Élise, c'était une tante de maman, donc c'était un peu plus loin pour nous. Pour nous, elle était à la campagne, on allait la voir une ou deux fois par année. Quand j'étais enfant, le souvenir que j'avais de ma tante Élise, c'est qu'elle portait toujours deux choses, et son sourire et son tablier. Elle avait toujours ça, ma tante Élise. Mais cette femme-là, pour moi, ça incarnait la bonté. C'était ma tante Élise, c'était la bonté même. C'était du bon pain. Et des années après, elle était au ciel depuis longtemps. Son souvenir m'était revenu dans une retraite de silence. Mais je me disais, mais pourquoi est-ce que je pense à Élise, non? Elle était décédée depuis longtemps. Et ça, en dedans, ça disait, mais quand tu étais enfant, avais-tu peur d'Élise? Mais non! Ma tante Élise, c'était bon comme tout. Oui, mais ta tante Élise avait quand même des limites, des défauts. C'était un être humain, certainement, mais l'enfant que j'étais ne pouvait pas voir les défauts de ma tante Élise. Alors, si quand tu étais enfant, tu n'avais pas peur d'Élise qui était bonne, mais avec ses limites, est-ce que tu peux avoir peur du bon Dieu qui est bon, lui, sans limite? Le Père que Jésus nous révèle, le bon Dieu. Une autre parabole de Jésus. Au chapitre 14 dans Saint-Luc encore, les versets 15 à 24. À ces mots, l'un des convives dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux. » Et Jésus lui dit, « Un homme faisait un grand dîner auquel il invita beaucoup de monde. » À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, tout est prêt. » Mais tous, comme de concert, se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ, il me faut aller le voir, je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je pars les essayer, je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit encore, « Je viens de me marier, je ne peux pas y aller. » À son retour, le serviteur apporta cela à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Va-t'en vite par les places et les rues de la ville et introduis ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » « Maître, dit le serviteur, tes ordres sont exécutés, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va-t'en vite par les chemins le long des clôtures et fais entrer les gens de force afin que ma maison se remplisse. » Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. Quelqu'un fait un grand dîner, tout le monde avait été invité, tout le monde avait répondu « Oui, 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 d'accord, d'accord, bien sûr, je serai là. » Au dernier moment, ben là, je ne peux plus. Finalement, qui est-ce qu'on invite? Les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, les handicapés de la vie, les éclopés de l'existence, les blessés, les triturés, les meurtris. Voilà ceux qui sont invités au grand dîner. Où est le Père? Le Père, c'est ce monsieur qui fait un grand dîner. Où est-ce que nous sommes? Parmi les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Où est notre salut? Nous sommes invités au grand dîner. Le royaume, tous les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux de la terre, enfin réunis auprès du Père, au grand banquet de la vie éternelle. Arrête-toi à penser ce soir que toi aussi tu comptes parmi les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et quand le Père du ciel pardonne, c'est toujours sans condition. Il ne met pas à condition que, pourvu que, dans la mesure où, si tu t'excuses, il te redit simplement, « Je te pardonne. » Je te pardonne. Il te laisse au reste à ta propre décision, mais lui, il te pardonne. J'ai oublié tout à l'heure, à la fin de la parabole sur la brebis, le verset 7. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Mais 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir, ça n'a jamais existé. Tous les êtres humains sur la terre sont pécheurs. Sinon, on pourrait commencer la messe en disant « Nous sommes tous des justes, mais on va passer tout de suite au Gloria. » Nous sommes pécheurs, puis Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Oh non, mais pas les sœurs contemplatives, elles sont seulement des tout petits péchés, là, des pas gros du tout, là, juste des tout petits, des tout petits. Parfois, c'est pire que des gros péchés, ça. Je peux juste y donner un petit coup d'épingle, pas gros, là, juste un petit coup de rien, là, juste pour qu'elles le sentent. Pas plus un petit quelque chose, là, juste pour... C'est bien plus méchant, ça, qu'un coup de pied. C'est du bon monde, les soeurs contemplatives, sans crainte. Imagine-toi que le Père du ciel invite tous les mal pris, puis les poqués, puis tous nous autres. Il nous invite. C'est parce qu'on l'a mérité. C'est lui qui est bon. C'est lui le bon. Ah, mais oui, mais Père Roger, là, dans Saint Matthieu, il y a aussi un monsieur qui fait un grand dîner, puis à la fin, là, il n'y avait pas la tenue de noces. C'est un texte parallèle dans Saint Matthieu, chapitre 22. Alors, au début, c'est pas mal la même chose pour le début. Enfin, les premiers ne veulent pas venir. Finalement, qui est-ce qu'on va inviter? On invite les méchants, les mauvais comme les bons. On invite tout le monde, finalement. Puis au verset 11, chapitre 22, là, quelqu'un n'a pas la tenue de noces. Puis celui-là, au verset 11, je vous lis peut-être la phrase finale. Jetez-le pieds et poings liés dehors dans les ténèbres, là seront les pleurs et les grincements de dents, car beaucoup sont appelés et peu sont élus. Dans l'évangile de Saint Matthieu, à 5 reprises ou à 6 reprises, il y a les pleurs et les grincements de dents. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À chaque fois qu'on retrouve les pleurs et les grincements de dents, Matthieu, dans sa méthode, divise le monde en deux, les bons puis les méchants. Les bons d'un côté, puis les méchants de l'autre. D'un côté, les bons avec le ciel, avec les méchants, les pleurs et les graissements dedans. C'est commode, ça, comme vision. Diviser le monde en deux comme ça, c'est peut-être commode, mais ça ne correspond pas à la réalité. Ça n'existe pas, les gens qui sont seulement bons, puis les autres seulement mauvais. Ça n'existe pas, ça. Ce qui existe, c'est l'être humain à la fois bon et mauvais. Le pécheur, c'est l'être humain à la fois bon et mauvais. C'est inséparable, comme le bon grain puis l'ivraie dans le champ, là, c'est tout pris ensemble, ça. Et quand Matthieu divise comme ça le monde en deux, les bons d'un côté puis les méchants de l'autre, il applique la loi du talion avec les bons le ciel, puis avec les autres, bien, les pleurs et les grincements dedans. Matthieu est resté un peu pris avec la loi du talion, alors que Luc est beaucoup plus libre de ce côté-là. Il ne faut pas s'étonner, parce que la loi du talion, c'est tellement normal. On fait ça constamment dans la vie ordinaire. Tu as brûlé un feu rouge, mais si tu avais un policier, ben, tu vas avoir un billet, puis tu sais que tu en méritais un, donc tu paies le billet. Tu vas au magasin, madame, ça coûte tant, ben, tu payes avec la taxe. Mais voilà, c'est ça, c'est une égalité. On fonctionne constamment comme ça. Pour arriver à penser comme Jésus, il faut presque une conversion. Accepter de passer du talion à la miséricorde. Abandonne-toi en toute confiance à la miséricorde du bon Dieu. Père très bon, tu me connais tel que je suis. Tu m'as désiré de toute éternité. Tu connais mes misères, mes fragilités, mes impuissances. Je m'abandonne à ta miséricorde. Et comme dit Paul dans la lettre aux Romains, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse tout doucement au repentir. C'est pas la peur. Plus tu fais l'expérience de la bonté de Dieu dans ta vie, le Père du ciel m'a toujours pardonné depuis bébé et enfant, jeune homme, jeune fille, il m'a toujours pardonné, sans condition, sans reproche, sans exiger ceci ou cela, il m'a toujours pardonné. Et plus on en prend conscience, plus grandit en nous le désir de ne plus l'offenser. Père très bon, donne-moi la force de ne plus t'offenser, je ne l'ai pas. Donne-moi la force de ne plus t'offenser dans mes frères et sœurs. Donne-moi la force. C'est la bonté de Dieu qui tout doucement nous pousse au repentir. Ce n'est pas la menace. Parfois, les prédicateurs utilisent la menace. Doutez toujours dans ce temps-là. Le bon Dieu, le Tout-Puissant, n'a pas besoin de menacer. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, on parle de la colère de Dieu. Oui, ce sont des hommes qui écrivent et qui partent aussi de leur expérience, puis la colère, ça existe, alors on met ça aussi en Dieu. Le Père du ciel n'a pas besoin de se mettre en colère. Le bon Dieu. Demande-toi un petit peu ce soir, peut-être, dans ta réflexion, quelle est l'image que j'ai de Dieu dans ma vie? Toi, grand-papa, grand-maman, quand tu parles du bon Dieu, peut-être à tes petits-enfants, quelle image tu leur donnes? Est-ce que c'est vraiment le papa du ciel qui nous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui veut qu'on soit heureux avec lui pour toujours? Ou c'est le bon Dieu, attention, là, le bon Dieu te regarde. Là. Le petit doigt en l'air, là, le doigt en l'air, attention là. N'ayez pas peur, vous ne mettrez jamais le bon Dieu trop bon. Il est infiniment bon. Tu ne peux pas en mettre trop, il est juste infiniment bon. Alors n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il y a des gens qui me disent parfois, souvent taquinerie, mais Roger, toi, tu es un hérétique. Je dis merci beaucoup du compliment. C'est pas un compliment! Non, l'hérétique, c'est celui qui ne pense pas comme toi. C'est ça, qui pense autrement. C'est ça. C'est tellement grand ce livre-là. Il y a plusieurs mains là-dedans, il y a plusieurs théologies là-dedans. Il y en a fallu du temps pour arriver à penser comme Jésus de Nazareth. On a tué Jésus à cause de ce qu'il disait. Il dérangeait les prêtres, les scribes, les pharisiens, les sadducéens. Il dérangeait tellement par son enseignement, il a fallu le tuer pour le faire taire. Nous comptons parmi les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux que le Père invite au grand dîner du ciel. Et devant toutes les misères dont vous entendez parler, ce cas difficile de Magnotta, Lucas, Magnotta, il fait des choses épouvantables, déchiqueter quelqu'un devant une caméra. Mais c'est certainement un être profondément blessé dans son humanité pour faire quelque chose comme ça. Il faut qu'il y ait... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est à l'intérieur. Mais pour le Père du ciel, cet être qui la société va condamner probablement, parce qu'on ne peut pas laisser ça aller comme ça, c'est trop pour le bien des autres. Mais pour le Père du ciel, c'est un enfant terriblement blessé. Et son cœur de papa pardonne. Jamais le Père du ciel ne pourra abandonner un seul de ses enfants à son triste sort. Jamais. Jamais. Le bon Dieu ne peut pas. Il ne peut pas. Son cœur de papa ne peut pas. Le bon Dieu, quand Jésus nous en parle dans ses paraboles, levons-nous pour chanter encore un peu.